Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 à la télévision. C'est la dernière de la semaine. Alors on va bien en profiter en votre compagnie, bien sûr, grâce au 3216 et à l'appli RMC, et puis grâce à la compagnie extrêmement charmante de Rémi Barret.
Salut
Rémi.
Merci Estelle, merci à tous. Le week-end commence déjà, j'ai l'impression.
Enfin, si vous avez le train, hein, c'est oui, rien de moins sûr. Nous sommes également avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Le journaliste, auteur du podcast encore une histoire, Benjamin Muller.
Bonjour Estelle, ça va bien?
Ben oui, et puis notre journaliste indépendante de Dijon, bien sûr, Emmanuel Dancourt. Salut Emmanuel.
Salut Estelle, bonjour à tous et bon anniversaire à Arthur qui a 10 ans aujourd'hui. C'est le chroniqueur invisible de cette émission.
Ben oui, et comme nous allons parler des enfants, et ben, justement, sont-ils un tue-l'amour? Nous parlerons peut-être d'Arthur tout à l'heure.
Enfin,
on ne sait pas. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, les ordures qui s'entassent partout en France à cause de la grève des éboueurs. Faut-il instaurer un service minimum pour le ramassage des poubelles? On vous attend au 32-16. À midi et demi, une clinique évacuée après une coupure d'électricité de la CGT. Ce syndicat va-t-il trop loin? À 13h, 82% des Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il sortir de son silence et parler aux Français? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, on parlera donc vie quotidienne avec cette question. Les enfants sont-ils un tue-l'amour? Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1946. Et c'est peut-être l'une des raisons de cette désaffection.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va s'intéresser tout de suite à l'actualité du jour et c'est bien sûr la grève des éboueurs partout en France pour protester contre la réforme des retraites. À Paris et dans d'autres grandes villes, les poubelles s'entassent provoquant l'exaspération des riverains et des commerçants et ça risque de ne pas s'améliorer, Rémi.
Oui, depuis la reprise du mouvement contre la réforme des retraites mardi dernier, le 7 mars à Paris, 35% des éboueurs municipaux sont en grève désormais selon des chiffres de la CGT Nettoyement de Paris. Ce sont quelques 37 000 tonnes de déchets qui s'amoncellent dans les rues de la capitale. Cela concerne une dizaine d'arrondissements. Dans les autres, ce sont des entreprises privées qui assurent la collecte. Et donc là, la collecte est assurée. La reconduction de la grève a été votée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui au moins, tout comme à Metz, Nantes, Auch ou encore dans l'agglomération d'Antibes. À Antibes, où là, ce sont 60 à 70% des salariés qui ont cessé le travail. Grève également notamment à Béthune, Cherbourg, Libourne, au Havre ou à Orléans. Et si les poubelles ne sont pas ramassées, ce n'est guère mieux pour le traitement. Les ordures ne sont plus récupérées donc et ne sont plus détruites. C'est le cas notamment à Paris où les deux principaux incinérateurs de déchets parisiens sont bloqués.
Alors, faut-il instaurer un service minimum pour le ramassage des poubelles? Je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt.
Bah déjà, venez vivre à Dijon, comme ça vous n'aurez pas de problème avec vos poubelles, parce que nous, on n'a aucune grève actuellement.
Ouais. Ouais, ouais. Ne les tentez pas. Ils vous écoutent peut-être.
Après, moi, honnêtement, je suis pour le service minimum. Et pourquoi je suis pour le service minimum? Parce que j'ai bien en tête ce qui s'était passé à Marseille.
Ah oui.
Lors de la dernière grève, il y avait donc ces monceaux de sacs poubelles et d'ordures absolument partout. Il n'y avait plus. Et tout ça avait glissé vers la mer. Oui. Et il y avait donc une pollution maritime hallucinante. Oui. Et ne serait-ce que pour des raisons de santé publique, je trouve difficile, et je m'adresse à Thierry parce que je sais qu'il est contre, je trouve difficile de dire qu'il ne peut pas y avoir de service minimum. Mais après, comme l'a très bien rappelé notre ami Rémi, par exemple à Paris, la moitié des arrondissements sont gérés par du privé et l'autre moitié par du public. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures.
Ah oui, alors il y a le maire du 17e arrondissement qui est concerné par ces grèves, c'est horrible, dans le 17e arrondissement.
Moi, je suis arrivée à Paris de poubelles hier, j'ai halluciné.
Mais en fait, le maire, il a dit à Anne Hidalgo, écoutez, débloquer un budget pour justement que ce soit une entreprise privée qui vienne ramasser les poubelles. Et elle a dit non, ça ne l'arrange pas, bien sûr.
Ça ne l'arrange pas du tout.
Elle soutient le mouvement.
Moi, j'ai habité Paris.
Elle met des. Ah, j'habite pas Paris, j'ai de la chance, j'habite juste à côté.
C'est pareil.
Anne Hidalgo, il n'y a aucune raison. Enfin, elle, ça lui va très bien. Elle met des banderoles
sur sa mairie. Ça lui va très bien.
Elle met des tweets. Oui, mais ça lui va très bien. Plus c'est bloqué, plus c'est bloqué.
C'est horrible.
Plus ça va dans son sens.
C'est d'une saleté repoussante.
Ah, oui, et en plus,
surtout qu'à Paris, vous avez des rats partout.
À Paris, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça pour que la ville soit crade. En fait, je trouve que ils sont en train de tuer le service public quand même, parce que c'est vrai. Moi je trouve le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire que dans le privé, on a le droit de faire grève, il y a aucun problème. Mais la culture de la grève est quand même moins forte, etc. Et pardonnez-moi, mais là, on pourrit la vie des gens quand même. On pourrit vraiment la vie des gens. La question de santé publique, elle est évidente. Au sens premier, c'est-à-dire qu'il y a les gamins qui jouent déjà au milieu des rats. Je le dis pour les gens qui viennent pas souvent à Paris.
Ils peuvent penser qu'on carie. C'est peu de petits Parisiens qui jouent au milieu des rats.
Et ben en fait, de plus en plus. Je le dis parce que quand on vient
joue avec les rats.
Non, mais c'est le ventre de Paris, c'est Zola. Quoi.
Mais non, mais moi j'en vois.
Mais bien sûr, on en voit. Vous allez dans des bars, il y a des rats. Alors, il n'y avait pas besoin de ça. Vous allez
dans des restaurants chics aussi, il y a des rats.
Moi
j'en vois. Je ne vais pas citer, mais.
Non, ils sont en train un peu de tuer le service public parce que moi je me mets à la place des maires d'arrondissement. Je me dis, ok, je règle ce problème et je passe avec des sociétés. C'est Veolia, il y en a deux. Ils peuvent faire grève aussi, mais il n'y a pas.
Oui, c'est ça.
Et il y a une vraie question qui se pose très rapidement pour abonder dans ton sens. Dijon, je viens de regarder ses prestataires privés.
Oui,
donc ça fonctionne. Et à Toulouse, là, au mois de janvier, il y a une grève XXL des éboueurs. Et le maire a brandi la menace de privatiser la régie municipale de collecte des ordures et a lancé une étude pour privatiser une partie de la collecte. Oui.
Après, je vais me faire l'avocat du diable, mais ils ont raison. Les éboueurs, ils protestent contre la réforme des retraites. Il y a énormément de Français qui sont contre cette réforme. Et finalement, eux, ils se disent, et certainement à juste titre, que s'ils continuent à faire grève comme ça une semaine ou deux, il y a un moment où le gouvernement va devoir faire quelque chose, parce que là, pour le coup, ça
changera rien.
Ça impacte tout le monde. Donc eux, ils jouent leur jeu. Genre, on peut pas les critiquer
ils
en disant bah, ça nous gêne.
On a aussi le droit de donner notre avis. Ouais. Et moi, je trouve que le truc de dire, il y a plein de Français qui sont contre cette réforme. Mais donc je m'en fous, je fous des poubelles partout. Je suis désolé. Il y a aussi plein de Français qui sont favorables à cette réforme.
Très peu.
Oui, mais en fait, il y en a plein qui s'en accommodent. Et il y en a plein qui c'est pas leur préoccupation.
On leur donne pas beaucoup la parole non plus.
Voilà, on leur donne pas beaucoup la parole. Et excusez-moi, c'est toujours les mêmes secteurs qui blocs, il y a plein de gens qui peuvent pas prendre
mais
de train
mais parce
une
que
semaine,
c'est des secteurs porteurs, parce que bien tu penses bien, si toi tu fais grève, enfin pardon, mais je pense pas qu'Emmanuel Macron sorte de son silence, on en parlera à 13h, tandis que les éboueurs, là il va falloir faire quelque chose, parce que Emmanuel l'a rappelé justement, c'est une question de santé publique.
Oui, mais...
Thierry Moreau.
D'abord, sur le papier, évidemment, un service minimum des éboueurs, ça serait formidable, sauf que c'est impossible en réalité.
Et pourquoi donc?
Parce que c'est toujours compliqué et casse-gueule. Et puis, ça voudrait vous dire quoi, un service minimum? C'est-à-dire que c'est pas un service maximum. On ramasse la moitié des ordures, on en laisse la moitié sur le trottoir.
Mais non, mais au lieu de ramasser les ordures une fois tous les deux jours, tu les ramasses fois tous les quatre jours, mais au moins, t'as un service minimum.
Oui, mais la capacité.
Thierry, il y a des villes qui le font. Valoris, dans le sud, ils le font. Au lieu de ramasser tous les trois jours, ils vont ramasser
Paris,
qu'une seule fois.
Exactement. Alors, à Paris. Vous connaissez pas très bien le problème. À Paris, vu le nombre d'ordures ménagères, si on passe qu'une fois tous les deux jours, il va en rester de toute façon parce que la capacité des camions et le temps de travail des gens qui s'en occupent ne fonctionnerait pas. Donc, de toute façon, un service minimum n'a pas de sens. C'est un peu un des aspects de la grève qu'on n'avait pas vu venir. On pensait à l'énergie, on pensait au transport, puis celle-là, on l'avait pas vu venir.
Mais on n'avait pas envie de la voir venir, tu vois.
Voilà. En revanche, là où je suis pas d'accord avec Benjamin, c'est que ça montre la duplicité réelle de la mairie de Paris qui, d'un côté, encourage la grève et de l'autre côté, va crier en disant, regardez, c'est le bazar dans ma ville à cause de l'État et qui va appeler l'État au secours parce que c'est ça qui va se passer. Quand vous dites l'État.
On va poser cette question, faut-il envoyer l'armée?
Alors, j'allais y venir. Quand ça va devenir un problème sanitaire, parce que ça va devenir un problème sanitaire, l'État interviendra non pas pour abroger son texte sur les retraites et faire plaisir à ceux qui ont laissé les poubelles sur le trottoir, ils vont intervenir par l'armée pour
excusez-moi, mais alors au niveau du symbole de dire tiens on va casser la grève en envoyant l'armée actuellement je suis pas sûr que
alors ça va pas casser la grève parce que ça va pas durer très longtemps.
L'autre problème ce sont les commerces et notamment des restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir parce qu'ils ont c'est devant eux et c'est plein de poubelles. Est-ce que tu peux ouvrir ta terrasse?
Donc il y a un coût économique, absolument, il y a un coût sanitaire, un coût économique, donc c'est absolument une catastrophe. Mais franchement, là-dessus, Anne Hidalgo, elle a joué un rôle scandaleux parce que d'un côté, elle pousse à la grève et de l'autre côté, elle va dire regardez, l'État ne fait pas son travail, les trottoirs sont encombrés et elle ne donne pas de budget aux maires qui souhaitent avoir recours.
Déjà, la ville de Paris était sale, c'est une catastrophe. Enfin, je pense aux pauvres touristes qui se sont dit tiens, on va passer un week-end à Paris. Ouais. Ah, mais les pauvres, entre la météo,
mais ça plus la météo du jour.
Entre la météo et les poubelles, ça va être sympa.
Je tiens quand même à dire d'un point de vue campagnard, moi je suis dans une communauté de communes de plein de petits villages, les poubelles ne passent qu'une fois par semaine. Une fois, c'est les poubelles noires, une fois, c'est les poubelles jaunes. Je veux dire que quand il y a grève, tu sens très
pardon.
On est avec Ludovic. Vous le connaissez bien sûr, Ludovic. Il est éboueur à la ville de Paris. C'est l'éboueur star des réseaux sociaux. Merci Ludovic d'être avec nous.
Bonjour Estelle, ça va? Vous allez bien? Bonjour à tous.
C'est à vous qu'il faut demander ça.
Écoutez, moi ça va, mais bon, on lâche rien et il faut que le gouvernement nous écoute. Tant qu'il ne nous écoutera pas, on ne lâchera pas, on ne ramassera pas les poubelles, tout simplement. Donc j'ai entendu faire appel au privé, etc. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le privé aussi qui fait grève?
Ça se sent moins. Oui, mais Ludovic, vous dites pas quand même que, voilà, alors je vais parler de Paris, mais il y a bien sûr d'autres grandes villes, mais là, vous êtes éboueur à la ville de Paris, vous avez bien vu, ça s'amoncelle, c'est absolument dégoûtant, il y a des gamins quand même, ou des personnes âgées, qui passent à côté de ces poubelles, il y a déjà qu'il y avait des rats partout, mais enfin là, c'est encore pire, vous dites pas quand même que là, vous êtes en train de pourrir la vie des habitants, en fait?
Ben alors déjà d'une chose, je parle juste en mon nom, je parle pas au nom des syndicats, au nom des éboueurs ou quoi qu'est-ce. Moi, je parle juste pour moi et en mon nom uniquement. Alors après, oui, je comprends que c'est hyper compliqué pour les familles, etc., etc. Mais vous savez, il y a beaucoup d'incivilité sur Paris.
Je sais, ouais.
Voilà, donc c'est compliqué pour nous.
Ça rajoute un peu au problème, hein, quand même.
Notre travail est très compliqué et on ne pourra pas travailler jusqu'à... Alors j'exagère, hein, mais jusqu'à 70 ans, c'est pas possible.
Je suis d'accord avec vous, mais là, imaginez quand même les familles avec des poussettes. Vous êtes obligés de slalomer entre les poubelles.
Il faut un détour.
Enfin, merci Ludovic.
Ludovic, je suis désolé, vraiment, mais même moi, ça m'embête. C'est le seul moyen de pression qu'on a pour pouvoir faire réagir le gouvernement. Alors là, j'entendais l'armée, mais j'espère qu'ils vont réagir avant d'en être dû.
Mais c'est la question que tout le monde se pose. Je sais pas qu'il y a une grève des éboueurs, notamment à Marseille, on se dit, est-ce qu'il faut envoyer l'armée? Mais Ludovic, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez faire plier le gouvernement grâce à cette grève?
Mais bien évidemment, parce que si on laisse les déchets se cumuler comme ça, mais là, c'est la santé, c'est vital ce qui se passe là. Ça ramène en plus tous les charognards, donc on parle des rats, il n'y a pas que les rats, il y a aussi les cafards.
Merci pour ce tableau. Ludovic. Il y a les loups également.
Désolé, les renards.
Les renards.
Il continuera tant que le gouvernement ne bougera pas.
Non, mais là, vous nous dites, en fait, ce week-end, les poubelles ne seront pas ramassées.
Ben, dans certains arrondissements, oui.
D'accord.
Exactement.
Moi, par exemple, j'ai
fait deux fois grève déjà. Ouais. Là, aujourd'hui, je ne fais pas grève, mais demain, je vais faire grève.
Vous pouvez tenir combien de temps?
C'est compliqué. Moi, je fais grève en dents de scie, mais je vais tout faire. Je vais tout donner pour que on puisse avoir gain de cause. Vraiment.
Donc, mais Ludovic, je suis très étonné, moi, de vous. Ce que je veux dire, parce que en fait, il se trouve que j'ai lu votre livre et je vous suis sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà écouté plusieurs fois en interview. Je trouve qu'au contraire, vous essayez toujours de faire le lien entre les gens. Il y a toujours plein de bienveillance, etc. Et là, vous êtes dans le rapport de force et vous nous entendez pas quand on vous dit il y a pas d'autre moyen quand même que de rendre la ville dégueu en trois.
Trouvez-moi un moyen.
Ben oui, mais vous posez pas de cas de conscience là, ce qui est en train de se jouer.
Mais bien évidemment qu'on est conscient. Mais nous, on n'a pas d'autres moyens de pression. Ouais. Et en plus, par rapport aux grèves, regardez, il y a d'autres groupes qui eux peuvent compter sur le 13e mois, sur le 14e mois, ils peuvent compter là-dessus. Nous, on peut pas. On n'a pas de 13e mois. On n'a pas de 14e mois. C'est compliqué pour nous. Il faut pas croire. Ça m'enchante pas de faire la grève.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les retraites, le 14e mois, Ludovic. Ou alors.
Non, mais peu importe. Oui. Quelqu'un qui fait grève.
Il dit qu'il donne de son argent pour faire grève. En fait, c'est-à-dire que ça lui coûte de faire grève. Mais encore une fois, finalement, les éboueurs seraient peut-être les nouveaux conducteurs de train. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était les gens de la SNCF qui pouvaient faire peser, qui pouvaient faire qu'une grève marche ou pas. Bah là, ça risque d'être les éboueurs, parce qu'on voit bien que les trains, même si on est dérangé, finalement, on peut trouver des solutions. Les poubelles, tu peux pas trouver de solution. Hein. C'est-à-dire que le train, tu peux te dire, tiens, bon, écoute, ça m'embête, mais je vais prendre ma voiture. Mmh. Là, comment tu fais? Les poubelles, il n'y a pas de solution. Et en fait, ils sont un peu les maîtres du jeu, Ludovic et ses petits camarades. Après, on verra si ça marche ou pas. Mais en tout cas, Ludovic, vous nous le dites aujourd'hui dans Estelle Midi, je vais continuer tant que je peux. Et cette grève, tant que le gouvernement ne pliera pas, elle continuera. Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic, d'avoir été avec nous. Ludovic est boueur à la ville de Paris et star des réseaux sociaux. On est également avec Christophe, qui nous appelle de Bordeaux et qui est éboueur depuis 26 ans. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous, Christophe. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme Ludovic? Est-ce que vous faites grève également?
Alors, écoutez, nous avons fait grève tout à fait au début des appels qui étaient lancés par les syndicats. Oui, effectivement, nous avons fait grève. Bon, certains ne pouvaient pas cause financièrement, ce qu'on peut comprendre. Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais remettre en place. C'est assez marrant quand même, comme quoi vous avez une courte mémoire, vous les journalistes et aussi bien les gens. On réclame une chose, c'est vraiment pas la fin du monde. Hein. On réclame au moins déjà le respect de notre métier et surtout de gagner notre vie et surtout de pouvoir être à la retraite à un certain âge où on puisse être valide et non être assisté par des trucs médicaux et tout, parce que ces métiers, c'est déjà très difficile, c'est pas facile, et il faut aussi faire la vision entre les gens, parce que les gens sont de plus en plus nerveux, plus en plus, on va dire, antisociaux, etc. On se retrouve avec des métiers qui est vraiment très difficile à essayer de gérer, et en plus on se lève, nous avons des équipes de nuit, nous avons des équipes de jour, nous avons des équipes d'après-midi, le service du nettoyement se fait quand même régulièrement. Quand on rentre à Paris, excusez-moi, vous dites que c'est pas propre, mais il faudrait peut-être un petit peu voir comment ça se passe, parce que c'est pas la faute des éboueurs et des services du nettoyement.
Ah mais j'ai jamais dit ça, monsieur. Non mais Christophe, j'ai jamais dit ça.
Non mais faut remettre les choses en question, parce que c'est bien mignon de dire comme quoi que la ville est sale, mais à cause de qui aussi la ville est sale?
Mais à cause des Parisiens et des touristes. Non mais ça, attendez, ça, Christophe, mais on est entièrement d'accord. Mais enfin, votre grève n'arrangera pas les choses.
Non mais attends. Vous savez, parfois une grève, elle arrive à beaucoup changer. Parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas très longtemps, nous avons fait grève, nous avons fait nécessaire, nous avons réussi à obtenir ce qu'on voulait. Mais il y a que comme.
Mais là, vous voulez quoi, Christophe? En fait, ce que vous voulez, parce que je comprends, évidemment, vous faites un métier pénible, vous êtes éboueur, ça, vous restez pas derrière un bureau pendant 20 ans. Ça je l'entends. Maintenant, il y aura des critères de pénibilité dans cette réforme. Donc,
ils les ont sortis dès le départ, avant qu'il y ait cette réforme-là. Elles y étaient au départ.
Je sais.
Il les a sortis. Pourquoi les avoir sortis?
Parce qu'ils ne veulent plus de critères de pénibilité par métier, mais individualisés. Ça veut dire que vous passez une visite médicale qui vous dira si oui ou non vous êtes apte à continuer à travailler. Voilà. Alors après, on peut considérer que ça devient trop tard.
C'est un médecin, vous êtes en train de me dire, qui va nous donner l'autorisation, oui ou non. Mais vous croyez que ça va se faire comment au niveau de. Ça va retomber comment au niveau des échelles? Ce qui veut dire que là-haut, ils vont leur dire, écoutez, essayez de faire au maximum pour pas qu'ils soient. Et qu'on les recycle, etc., qu'on les remette ailleurs, pour pas qu'ils soient en retraite. Mais franchement, on connaît déjà le système. On sait comment ça va se passer, on sait très bien où ça va nous mener. On va se retrouver avec des métiers. Vous croyez quoi? Recycler tous les éboueurs qui sont derrière?
Non mais d'accord, Christophe, mais là vous prêchez pour votre paroisse. Très bien, vous êtes éboueur, le métier il est compliqué. Ok, on est tous d'accord avec vous, mais...
Je vais vous arrêter. Si moi je fais grève, madame...
Mademoiselle, mais c'est pas grave, ça
mademoiselle,
passe.
Excusez-moi, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Voilà, si moi je fais grève, honnêtement, c'est pas que pour moi. Parce que moi, honnêtement, j'ai ma vie qui est tranquille. C'est-à-dire que je gagne bien ma vie, ma femme... travaille aussi, elle gagne bien sa vie.
D'accord.
Mais il faut penser aux jeunes qui sont derrière. Il en faut des éboueurs. Il faut des gens. Il n'y a pas que les éboueurs. Regardez les infirmiers, les infirmières.
Mais on est d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est que. Oui, mais les infirmiers, ils ne font pas grève, par exemple. Enfin, c'est extrêmement rare.
Minimum,
quelque part, votre profession, elle est primordiale, Christophe. On ne vous le dit peut-être pas assez, mais on le voit encore plus aujourd'hui.
Mais d'accord. Pendant le confinement, qui c'est qui travaillait?
Mais franchement, on est d'accord, et on mettait tous des merci sur les poubelles et tout.
Par contre, on nous applaudissait, pas de problème. Et tout le monde est content de nous voir. Et là, quand on réclame, c'est pas la fin du monde. Que ce qu'on demande, c'est de partir à l'âge normal. 62 ans, c'est pas la fin du monde. Pourquoi on devrait partir à 64 ans? Vous imaginez, je travaille depuis 14 ans, madame.
Je comprends, mais Christophe, encore une fois, personne ne remet en cause la pénibilité de votre travail. Là, ce qu'on remet en cause, c'est le fait que vous êtes en train quand même de pourrir la vie. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais vous êtes en train de pourrir la vie de millions de gens. Et encore une fois, il y a des conséquences sanitaires. Vous savez pas si dans les campagnes, par exemple, il y a pas des gens qui vont aller brûler les poubelles, parce qu'il y a un moment où ils vont se retrouver avec un monceau de poubelles impossible. Vous savez pas ce que les gens vont faire. Ils vont faire quoi, les restaurateurs, quand ils auront 20 poubelles devant leur porte? Vous voyez ce que je veux dire? La situation économique du pays, elle est pas géniale. Donc là, vous empêchez aussi les gens de travailler, Christophe. Et des gens, je suis désolée, mais les restaurateurs, c'est pas un métier facile. Donc vous empêchez aussi de travailler des gens qui ont un métier pénible.
Je suis rien du tout. Chacun peut travailler, faire ce qu'il veut, tout à fait d'accord.
Ah ben non, les restaurateurs qui ont 20 poubelles devant leur porte, ils ne peuvent pas travailler.
S'ils veulent brûler leur ordure ou même les mettre dans les bois, ils le font sans qu'on se régresse.
Bah super. Génial.
Mais tu sais, les gens, ils sont comme ça. Mais tant qu'on les chope pas, tant qu'on les prend pas sur le fait, ils font tout et n'importe quoi.
Christophe, vous êtes payé. Je suis désolée, mais moi, mes impôts, alors, si vous êtes dans une société, enfin, si vous êtes dans le public, moi, mes impôts, ils servent à payer aussi les éboueurs. À Paris, par exemple, on voit que la taxe foncière, elle augmente de 50% pour les gens. Dans cette taxe, on paye les éboueurs, on paye un service. Et aujourd'hui, ce service, il n'est pas rendu. Donc ça aussi, c'est un problème. Moi, on va pas me rembourser si vous venez pas ramasser les ordures à côté de chez moi. Bon, moi, ça marche. Donc j'ai de la chance. Mais je veux dire, il y a un moment où voilà, les gens ils payent. Et vous, vous faites partie du service public, Christophe.
Mais mademoiselle, si je les paye, les services d'impôts, je suis comme vous. Hein. Il y a d'autres services auxquels ils sont en grève et je vais pas râler pour eux par rapport à eux. Parce qu'ici, s'ils font des grèves, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas.
Mais oui, on est d'accord.
Mais avant d'arriver à une grève, avant d'arriver au point de départ de grève, il y a bien un dialogue. Mais quand il n'y a pas de dialogue, on vous ouvre la porte, quand la porte est fermée, on fait comment? On passe par la fenêtre?
Non mais je comprends. Christophe, et c'est vrai que c'est un dialogue.
Christophe a commencé à 14 ans, il partira pas à 64.
Hein. Exactement, il y aura de toute façon voilà, votre critère de pénibilité, il sera forcément pris en compte. Enfin, personne n'imagine des éboueurs partir à 65 ans ou alors là c'est vraiment il y a un truc qui va pas. Merci Christophe en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir exprimé votre point de vue. Vous avez pas mal de messages Rémi et certainement aussi d'habitants excédés.
Ouais, il y en a qui comprennent et puis qui voilà les choses d'une manière différente. J'ai plusieurs messages comme ce message de Thalys qui nous dit le blocage nous a fait comprendre que les éboueurs ont une nécessité dans la cité qui est discriminée et que c'est une profession discriminée quand c'est pas la grève. Voilà, il faut attendre qu'il y ait une grève pour qu'on se rende compte de leur utilité. Il y en a d'autres qui sont excédés, il y a pas de message.
Pour savoir que c'était
important de ramasser les poubelles. Bah, en tout cas, oui, mais enfin, tu le vois pas. Certains le disent que, effectivement, lorsqu'il y a eu le Covid, c'est ce que nous disait à l'instant l'auditeur, on s'est rendu compte de l'utilité de leur métier, mais quand ça marche bien, quand les poubelles sont ramassées tous les jours, on s'en rend moins compte. Et il y a ce message d'Eliott qui nous dit quand j'entends Ludovic expliquer sa grève va entraîner des problèmes de santé publique et que pour ces raisons, il ne va rien lâcher. J'espère que le jour où il sera aux urgences, le médecin urgentiste en grève ne rentrera pas dans la même logique.
Oui, mais les médecins, justement, ne font pas grève. Ouais. Ils ont un brassard ils s'arrêtent pas de bosser à l'entrée de la salle d'opération. Vous voyez, c'est assez rare. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Doit-on instaurer un service minimum chez les éboueurs en grève, Rémi?
C'est le oui qui l'emporte d'une courte majorité. Oui, pour 55% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ouais, c'est pas massif. Non. Et il y a beaucoup de Français qui sont derrière les éboueurs parce que justement, leur grève, elle peut quand même peser du côté du gouvernement. Dans un instant, on va parler de la coupure du jour. C'est celle à Charleville-Mézières, coupure revendiquée par la CGT qui a cassé une IRM. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui vont devoir attendre 3 semaines désormais pour avoir un rendez-vous, des centaines de rendez-vous médicaux annulés. Est-ce que ça va trop loin désormais? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 30 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi en compagnie aujourd'hui de Rémi Barré, de Thierry Moreau, de Benjamin Muller et d'Emmanuel Dancourt. Et on va tout de suite s'intéresser à la coupure du jour. C'est celle revendiquée par la CGT dans la ville de Charleville-Mézières. Une coupure qui a entraîné l'arrêt d'une IRM dans une clinique. La clinique a dû être évacuée et résultat, des centaines de rendez-vous médicaux annulés et 10 salariés au chômage technique, Rémi.
Exactement. Au total, ce sont quelques 135 sites qui ont été visés par ces coupures à travers toute la France, coupure, je le rappelle, illégale, dans le cadre de ce qui était voulu comme une journée d'action des électriciens et des gaziers. Alors, il y a eu la médiatique coupure d'électricité, on en a parlé au Stade de France et sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024 à Saint-Denis, mais aussi celle survenue, tu l'as dit Estelle, dans le quartier de la gare à Charleville-Mézières. Conséquence, une rupture d'alimentation électrique qui a provoqué un dysfonctionnement du système de refroidissement de l'IRM de la clinique du parc, le circuit qui contient de l'hélium est monté en surpression, la soupape située sur le toit laissant échapper le gaz violemment dans un bruit d'explosion. On imagine la frayeur, alors pas de blessés, mais grosse frayeur quand même, l'établissement a dû être évacué et surtout cette IRM ne pourra pas être utilisée pendant une dizaine de jours, privant les patients de leurs examens. 50 examens de radiologie sont effectués dans cette clinique chaque jour d'après la préfecture des Ardennes. 10 salariés sont par ailleurs placés en chômage technique. La CGT Mines Énergie regrette l'incident, mais ne change pas pour autant d'attitude. Promet de multiplier ce type d'action, alors pas sur la clinique, pas visant les cliniques, mais des coupures, des coupures, et de taper encore plus fort dans les jours qui viennent.
Mais je pense que ces gens-là qui ont fait ça, ils ne doivent pas avoir de proches qui sont malades ou qui attendent les résultats d'un examen. IRM, c'est aussi des gens à qui on a dit « Ah, monsieur, il y a une petite suspicion, là, vous devriez aller passer une IRM. » Et c'est les gens qui attendent avant de savoir s'ils jouent un concert ou pas. Et ces gens-là, en fait, ils vont devoir attendre. L'attente, elle est extrêmement dure. Ils vont devoir attendre encore plus et tout. Mais c'est scandaleux, en fait. Il y a aussi des enfants qui passent des IRM. Enfin, moi, ça me scandalise. Mais bon, est-ce que ça va trop loin, justement, pour vous, Benjamin Muller?
Oui, Rémi a dit il regrette, la CGT regrette l'incident. En fait, ils regrettent, mais vite fait. Quand vous lisez, est-ce qu'une dame.
Ils ont apporté un bouquet de fleurs à l'EHPAD aussi, où il y a une coupure d'électricité.
Elle a dit on n'aurait jamais imaginé qu'un hôpital ou une clinique pourrait être impacté par cette coupure. Génial, il fallait peut-être se renseigner avant. Une panne peut arriver n'importe quand. On voit le danger du système de sécurité de la polyclinique. Sous-entendu, on est presque des lanceurs d'alerte, parce que grâce à nous, on se rend compte quand même que l'IRM, ça tient à pas de chaud. Je veux dire, la moindre des choses, à la limite, ils font cette connerie. Ils prennent la parole, ils disent pardon. Franchement, là, on est allé trop loin, ça va bien au-delà de nos trucs. On se met à la place des familles. Effectivement, moi, je pensais comme vous. Je veux dire, si un de mes enfants attendait pour une IRM aujourd'hui, on sait que ça prend du temps, on sait.
Moi, je ne sais pas. Il y a trois mois de décalage, au moins, pour prendre une IRM.
Et encore, tu es à Paris, tu peux avoir une IRM dans les deux jours. C'est à Charleville-Mézières. C'est pas comme si les médecins se ruaient à Charleville-Mézières.
Et même si ça leur fait perdre trois jours d'attente pour savoir si votre enfant est malade, non,
c'est 10 jours, là.
Et donc là, c'est 10 jours minimum.
Minimum, parce que t'as tous ceux qui doivent avoir des IRM en urgence qui vont.
Et là, je vois pas comment cette chose peut être populaire. Autant les éboueurs tout à l'heure, je comprenais les arguments. Autant là, c'est complètement injustifiable. Et la CGT Énergie, donc du coup, j'ai regardé ce qu'il dit. En fait, il dit nous, on voulait cibler surtout des lieux stratégiques, donc les gares classiques.
Ouais, commissariat les hôpitaux, de police, c'est vrai que c'est stratégique.
Et commissariat de police, voilà ce qu'il voulait cibler. Mais c'est pareil, la police. Enfin, et donc, on cible la police. Et tout le monde dit ah oui, la police, tout va bien. Non, mais attendez, la police, on en a besoin quand même, les amis. Et si demain il y a un cambriolage, si demain il se passe quelque chose, il y a des gens qui arrivent chez vous, vous êtes bien content d'appeler les flics et qui décrochent. Et on trouve ça normal. On est quand même d'arriver dans un délire où on mélange, trouve toutes les formes de grève et où il y a des gens de la CGT qui vont vous expliquer que bon, l'IRM c'est un peu embêtant, désolé, la prochaine fois on fera mieux. Moi je trouve qu'on marche sur la tête.
Non, mais en plus, je crois qu'ils se rendent pas compte de combien coûte une IRM. C'est des machines qui sont extrêmement coûteuses. Là, il y a parfois, elles sont financées par des associations, tellement ça coûte cher. Non, mais c'est absolument
scandaleux.
Il y a l'IRM, mais ils assument en fait que derrière, ils ont dit quand même la CGT Énergie des Ardennes revendique vraiment la mise à l'arrêt des radars ardennais, la zone industrielle de Poitéron, deux postes de sources d'éoliennes, la centrale hydroélectrique de Revin-les-Lumes, les antennes téléphoniques. Et ils assument même le risque juridique, parce que tu l'as bien rappelé, Rémi. C'est interdit. Et ils assument le risque juridique. Mais elle est où la responsabilité? Je veux dire, t'as un droit de grève, mais il faut pas que ce droit de grève et ce droit deviennent abusifs. Et t'as pas le droit.
Rémi, c'est quoi les peines encourues?
Alors, il y en a plusieurs. Il faut savoir qu'à chaque fois, systématiquement, Enedis porte plainte lorsqu'il y a ce type d'actions qui sont menées. Les peines encourues, en plus des sanctions disciplinaires, forcément, le possible renvoi des salariés concernés, ils peuvent écoper d'une amende de 1500 euros, portée à 3000 euros en cas de récidive. Voilà. Le procureur de la République peut y ajouter de nouveaux chefs d'accusation. S'il y a eu des conséquences comme là sur la vie d'autrui, une éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, là, c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Enfin, les responsables des coupures pourrait également être accusé de dégradation avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et des amendes pouvant s'élever jusqu'à 30 000 euros. Et il y a déjà eu dans ce type d'affaires par le passé de coupures sauvages lors de conflits sociaux, il y a déjà eu des condamnations.
Et la clinique du parc va peut-être porter plainte, de fait.
Il faut espérer. Parce que c'est, encore une fois, c'est inadmissible. Philippe Martinez, le leader de la CGT, s'est désolidarisé ce matin, mais il n'a pas condamné. Est-ce qu'il doit aller plus loin et condamner, pour vous tirer le mot?
C'est un peu facile, il doit condamner. Ces coupures sauvages sont illégales, tu l'as rappelé, elles sont antidémocratiques et il y a des dommages collatéraux. Avant cet incident-là, il y a eu l'incident où ils ont coupé la rue dans lequel il y avait la permanence d'Olivier Dussopt. Et évidemment, tous les particuliers de la rue ont eu leur courant coupé.
Ah, Nonet, tu veux dire?
Absolument. Et donc, moi, j'avais entendu un leader syndical expliquer qu'ils allaient privilégier les coupures auprès d'entreprises très ciblées, de façon à vraiment toucher là où ça fait mal, etc. Non, il y a des dommages collatéraux. Et j'aimerais savoir si vraiment il y a eu des gens.
Une seule habitation comme
on
ça,
peut pas, c'est impossible.
On peut essayer aussi du côté de chez Gérard Larcher, mais ça n'a pas marché.
C'est des armoires, c'est des serveurs qui couvrent des zones, donc c'est impossible. Donc non. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? On sent bien que ce sont des derniers bastions. On sent bien que l'affaire, elle est pliée. De toute façon, le texte, il va être adopté. Alors avec 49-3, pas 49-3, le Sénat va peut-être pas se mettre d'accord, commission paritaire et puis après derrière un vote bloqué. Bon, peu importe.
C'est baroud
d'honneur,
donc
on sent bien que là, il n'y a plus que quelques bastions ultra syndiqués, donc ultra radicaux, donc ultra violents. Qui y vont et très clairement les jeunes qui devaient rentrer dans la danse hier, vous avez entendu des choses, ça n'a pas fonctionné. Donc de toute façon, ça y est, c'est mort, c'est plié. Donc on va assister à une radicalisation par une minorité, comme on a vu il y a quelques mois avec une centaine de personnes dans les raffineries qui ont bloqué la moitié des stations du pays.
Ils ont eu ce qu'ils voulaient, raffineries.
Mais sauf que là, ils ne reculeront pas. Donc de toute façon, c'est peine perdue et ça fait des dommages collatéraux. J'espère qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui avaient besoin de ces IRM. C'est un scandale. Absolument.
Alors justement, on est avec Maxence qui est ambulancier à Charleville-Mézières et qui travaille pour cette clinique justement qui a été paralysée hier. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle
Midi. Bonjour.
Et je crois que vous travaillez là actuellement d'ailleurs dans cette clinique.
Oui, on emmène les patients constamment là-bas. Après, la décision des syndics. On sait que c'est un bazar. Au moins, ils ont fait quelque chose et là, ça a bloqué tout le monde. Et ça tout le monde.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, vos patients, vous, que vous emmenez à la clinique, Maxence?
Merci, les syndics.
Ouais. Mais personne merci. Ne vous dit ils ont eu raison de faire ça, quoi.
Ah non, 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 pas du tout. Mais là, on touche du côté médical. Oui. Donc, pour bloquer avec des ballots de paille et des pneus ou des poubelles dans la rue, ok. Mais là, par contre, c'est la santé des gens et là, c'est pas très cool.
Ouais, bah ouais, et effectivement, beaucoup de gens risquent de se désolidariser du mouvement. Mais merci
surtout,
en tout cas.
Ouais, allez-y. Surtout le temps de l'attente, c'est quand même ça. Un examen, une IRM, c'est quand même un examen qui est, il y a quand même des délais. Oui. Des imageries médicales, il y en a pas non plus 100 000 partout. Sur le 08, on est quand même sur les Ardennes, pardon. Il y a quand même quelques centres, mais il y a parfois des délais qui sont assez longs.
Oui. Mais bien donc, sûr, et ça va s'amonceler, donc ça va être de pire en pire.
Et des IRM, c'est la conséquence des examens aussi antérieurs passés par le patient. Donc derrière, ils en ont besoin et assez rapidement.
Oui, c'est ça. On passe pas une IRM comme ça parce que ça fait plaisir. Et puis au-delà du scandale, parce qu'il y a un problème à la base.
Au-delà du scandale, c'est contre-productif pour les syndicats parce que ça rend la grève totalement pas populaire. Et donc le gouvernement va avoir la légitimité pour dire on clôt vite ce chapitre et hop, on passe à autre chose. Donc c'est contre-productif.
Une machine IRM coûte entre 500 000 et 1 million d'euros.
Oui, exactement. Merci beaucoup Maxence d'avoir été avec nous dans Estelle Midi et de nous avoir raconté comment ça se passe dans cette clinique de Charleville-Mézières. Est-ce qu'il faut taper fort, Benjamin Muller, et lourdement condamner les auteurs de ces coupures?
Mais moi, j'ai l'impression qu'au final, quand on compte les points à la fin d'une grosse grève comme ça, c'est souvent très clément. Rémi disait qu'il y avait eu des condamnations. J'attends de voir, mais je veux dire, même s'il y en a deux ou trois qui prennent 1500 euros de condamnation, à mon avis.
Ça va être viré.
Bon, oui, alors, et ça, c'est clair qu'il devrait être viré. Alors, j'imagine que toutes les procédures vont être faites. Moi, selon moi, là, oui, la question se pose pas. Et j'imagine que le procureur de la République de Dijon s'est saisi de la chose. Une fois encore. Alors qu'on se parle, il y a 500 personnes. Et donc, avec leur famille, il y a 3000 ou 4000 personnes qui disent, merde, mon énorme angoisse actuelle est prolongée à cause de ces personnes. Et une fois encore, qu'à la CGT, personne n'ait la présence d'esprit de se dire on est vraiment.
Parce qu'ils n'ont pas pensé, mais c'est ce que, c'est ce que le leader de la CGT te dit.
Après coup, qui s'excuse.
En fait, il faut rester humain. Et on est dans un débat qui est politique, un débat qui est sociétal, qui est syndical, etc. Mais il faut quand même rester humain. On est quand même dans un pays où je pense qu'on peut encore avoir des arguments, même syndicaux, même rapport de force, etc. Mais pas ça, quoi. Pas ça.
Emmanuel Dancourt, est-ce que cette coupure-là, elle peut rendre le mouvement impopulaire? On s'était dit, il va y avoir forcément un point de bascule à un moment. Là, c'est vrai que le mouvement, il était largement plébiscité par les Français. Mais là, je doute qu'il y ait beaucoup de Français qui approuvent justement ce genre de choses.
Eh bien, si un des patients, des 500 patients, qui ne peut pas passer son IRM, décède, il va y avoir un énorme. Mais non, mais il aura pas pu passer son IRM peut-être assez à temps pour qu'on réagisse. Je sais pas moi sur un AVC, sur je sais pas quoi, un problème. Enfin, on est à la limite. Alors je vais dire un mot énorme, mais je mets quand même des guillemets. Mais on est à la limite de d'une action presque criminelle, parce que comme l'a rappelé notre ambulancier, on touche à la santé des gens. Ouais. Et quand on touche à la santé des gens, pour moi, c'est feu rouge. Donc la bascule.
Alors c'est
elle
pas
est
comme
faite,
fermer un bloc opératoire, par exemple. Où là, c'est quand même différent. Moi, je trouve que l'IRM, je pense qu'on met pas. C'est pas la santé directe.
C'est mise en danger de la vie d'autrui.
Ouais.
C'est pas la santé directe. Moi, quand on a cru que j'avais fait un AVC, la première chose qu'on m'a fait faire, on m'a emmené direct vers une IRM. S'il y avait eu un blocage et que je faisais pas d'AVC, tant mieux, mais il y avait quand même un problème.
On est avec Mino qui nous appelle de Chelles en Seine-et-Marne et qui voulait réagir sur ce dossier. Allez-y, Mino.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Ben, je voulais juste réagir par rapport à cette coupure de courant. Pour moi, on ne touche pas à tout ce qui est médical.
Ouais.
Maintenant, je soutiens tout à fait la CGT l'opposition à cette réforme. Mais par exemple, pour l'histoire du Stade de France, moi, ça me dérange pas du tout parce qu'il n'y a pas de survie derrière. C'est tout à fait économique. Mais voilà, pour moi, le médical, on n'y touche pas du tout. Mais je voulais juste préciser, je pense que la personne qui a provoqué cette coupure n'était pas du tout au courant qu'il y avait
Bah on se renseigne.
L'IRM derrière son action quoi. Donc voilà.
Bah oui, mais elle aurait pu regarder. En fait, c'est des quartiers, donc elle voit bien que dans le quartier il y a une
quartier
clinique.
De la gare,
et encore une fois, moi, voilà, c'est une erreur. Évidemment que la personne, elle s'est pas dit tiens, on va aller bousiller la clinique, ça je pense pas. Mais derrière, plutôt que derrière, elle s'est même pas excusée en disant oh bah, elle a dit on est désolée, mais enfin ils avaient qu'à faire gaffe à l'hôpital. Bon bah non, mais ça c'est pas possible. Il faut au moins avoir des excuses, des vraies excuses,
non,
parce que là
faire,
c'est des fausses excuses.
C'est illégal.
C'est illégal. Enfin, après, on peut continuer.
Oui, mais
Mino
fait la différence entre couper l'électricité du Stade de France et couper une digue, et ça, je peux le comprendre.
Oui, mais le problème,
il y a quand même suffisamment de possibilités de droit de grève en France pour ne pas passer à des mesures illégales. Excusez-moi, on est dans un pays démocratique.
Mais c'est pas pour rien,
manifester, on peut bloquer.
Tu vois bien que le mécontentement, il monte.
Ah non, moi je pense qu'il est plutôt en train de baisser et qu'on est à la fin du mouvement.
Ah ben on est peut-être à la fin du mouvement, mais à la fin du mouvement, c'est là, c'est comme à la fin des manifs. Hein. C'est là où t'as les radicalisations, etc., les incidents.
C'est ce que
etc.
je disais tout à l'heure.
Donc voilà, et là on est quand même tout près du point de bascule. Merci beaucoup Mino d'avoir été avec nous. Alors on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La CGT va-t-elle trop loin avec donc cette coupure d'électricité dans une clinique Rémy?
Là ça va trop loin pour 61% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
C'est tout ?
Ouais.
Ben, je pensais que ce serait 95%, oui, je suis extrêmement étonnée. Merci beaucoup Rémi. Dans un instant, on va parler de santé, tiens, avec Mélinda d'Avansoulas, avec des imprimantes 3D qui vont bientôt nous soigner. Vous verrez ça dans un instant. Et puis à 13h, 82% des Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il sortir de son silence et parler aux Français ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de parler nouvelles technologies. On n'arrête pas le progrès, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Avec Mélinda d'Avansoulas, c'est aujourd'hui. Mélinda, on va parler tech et médecine et comment l'innovation fait faire un grand pas à la santé avec notamment une histoire de mini-imprimante 3D dans le corps. On va se faire injecter une imprimante.
Est-ce que vous seriez prête à ça, Estelle, pour votre santé?
Pour la médecine, je suis prête à tout. Et pour la santé,
bon, ça va alors.
Voilà. Ça tombe bien. Faire injecter tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci.
On parle de l'impression 3D, ça fait faire des bons énormes en médecine depuis quelques années. Alors, notamment pour refaire des implants dentaires, des prothèses. On peut aujourd'hui faire des prothèses de mains, de bras, de sternum, de côtes, de tout ce que vous voulez.
Sternum?
Ouais. On peut aussi, vous vous rendez compte. Bon, c'est un peu plus risqué. Hein.
Oui, c'est ça, mais je ne l'ai pas.
On peut faire ça aujourd'hui, et ça a surtout créé des communautés de gens qui impriment pour les autres des prothèses et qui mettent les modèles en open source, c'est-à-dire en libre accès. Donc ça a permis notamment la création d'une société qui s'appelle Limitless Solutions, et eux, leur but, c'est d'offrir à des enfants handicapés des prothèses.
D'accord.
Et on avait notamment parlé de cette société parce que Robert Downey Jr. lui-même, donc Iron Man au cinéma, était venu apporter à un enfant une prothèse d'un bras d'Iron Man, un enfant handicapé. C'était magnifique, ça. Ceux qui sont à la radio, allez voir justement les images de cet enfant, mais qui est autant émerveillé par son nouveau bras que de voir Robert Downey Jr. qui vient lui apporter. Mais voilà, ça, c'est grâce aux imprimantes 3D aujourd'hui qui se généralisent, dont le coût a baissé et qui a fait aussi baisser le coût des prothèses. Avant, c'était 100 000 euros une prothèse. Aujourd'hui, à partir de 1 000 euros, vous vous rendez compte, 1 000 euros, on peut avoir une prothèse pour une main. Beaucoup plus de gens ont accès justement à cette technologie.
Mais alors, comment on fait justement pour créer un bras, une main, un sternum en 3D?
On l'imprime. C'est tout bête, on l'imprime dans des matériaux qui sont compatibles, justement, oui, des biomatériaux. Et là, moi, je vais vous parler d'une innovation assez folle. Ce sont des chercheurs australiens qui ont créé une mini-imprimante, cette fois qu'on va mettre dans votre corps, à la surface des organes. Donc, elle va... C'est pas vraiment une mini-imprimante, hein, ne paniquez pas tout de suite.
J'imagine bien. On va pas mettre la photocopieuse. On va pas avaler la photocopieuse.
Ça va peut-être pas vous faire plaisir plus que ça. Ça ressemble un peu à une coloscopie.
D'accord.
C'est comme un petit bras articulé qui peut se tordre dans tous les sens, qui a au bout cette mini-fonction d'imprimante, qui a un scalpel électrique aussi, et une mini-pompe, parce qu'il va aller à la surface de votre organe et pouvoir le reconstruire. Comme ça, en biomatériaux. Il pourra faire des petites incisions s'il y a besoin, nettoyer une plaie. Tout ça, ça fait 1 cm maximum de diamètre. Donc, c'est pas très, très grand. C'est censé être moins douloureux, justement, comme opération. Éviter des grosses opérations. Et éviter, notamment, toutes les infections qui souvent en découlent. Donc, ça peut être quand même une énorme prouesse.
Mais vous dites, il va pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas encore.
Pour le moment, ils ont présenté le prototype. Ils ont fait ça sur des reins Alors voilà, vous voyez, ceux qui nous voient les images, vous pouvez en profiter. Bon appétit.
Oui. Oui, c'est pas très ragoûtant, là. On voit les images sur RMC Story.
Pour le moment, ça a été testé. Alors elle est dans un côlon artificiel, pour le moment.
Ça fait très coloscopie. Hein,
voilà. Mais quand je vous ai dit que ça faisait coloscopie.
Oui, mais tout à fait.
Mais il faut pouvoir. L'avantage que ça aura,
c'est. Dans le colon descendant, là.
Ça pourrait aller partout. Et ils pensent même pouvoir soigner des cancers dans des zones qui sont difficiles d'accès ou qui nécessitent des très, très grosses opérations. Donc ça peut être quand même une vraie prouesse technologique.
Après, il faut du courant. Je dis ça pour la CGT.
C'est sûr que s'ils coupent le courant à ce moment-là.
Excusez-moi, j'ai mon grand colon qui me gratte, là. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi d'autres tendances que l'imprimante 3D. C'est la tendance, la médecine sur son smartphone, Melinda.
Oui. Alors ça, c'est une grande technologie qui arrive. On a vu ça, ce sont des Français. Une start-up qui s'appelle eVirtual, qui a créé ça grâce à un selfie vidéo. En fait, vous allez pouvoir savoir dans quel état vous êtes. Parce que vous regardez 30 secondes la caméra. Vous regardez 30 secondes, en fait, la caméra. Elle vous filme et elle regarde... Elle regarde votre visage. En fait, elle va regarder votre pouls, votre réflexe thoracique, et ça va vous donner votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre pression artérielle, 6 paramètres différents, et ça va vous rendre, ça va vous faire un compte rendu. Pour noter notamment votre niveau de stress.
Ça, j'ai pas besoin du téléphone.
Je vous rassure, vous ne le ferez pas chez vous. C'est pour de la télémédecine, notamment. Ça va être une vraie prouesse en télémédecine pour tous les examens à distance.
On avait déjà nos téléphones à la main.
Mais vous pourrez, mais il faudra un accord avec votre médecin.
Il y a déjà des montres qui font ça. Tu peux envoyer ton compte rendu. Oui. Tu vas faire un footing et t'as ton rythme cardiaque et tu peux envoyer ton compte rendu au
médecin. Et les alertes.
Il va bientôt pouvoir tout savoir.
Mais il faut faire un footing dans ton histoire.
Dites que tu marches dans ton appartement, ça doit marcher aussi. Merci beaucoup, Melinda, d'Avant-Soulias, d'avoir été avec nous toute cette semaine. C'est le retour d'Anthony Morel à partir de lundi. Et puis, si vous voulez retrouver cette chronique de Melinda, vous n'hésitez pas en podcast, bien sûr, sur rmc.fr, sur l'appli RMC ou sur toutes vos applis de podcast à toute heure du jour et de la nuit. Dans un instant, on va parler dans Estelle Midi de ces 82% de Français en colère contre la politique du gouvernement. Emmanuel Macron doit-il sortir de son silence et parler aux Français, peut-être pour les apaiser. Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.